au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Donc, on est dans le mystère Jésus aujourd'hui, en cette veille de Noël. Christian, on s'est attardé à qui a écrit les évangiles.
Oui.
Finalement, on ne sait pas trop.
Voilà.
Et puis, concernant l'histoire de Jésus, comme pour celle de Moïse, dont on a parlé la semaine dernière, pour l'histoire de Jésus, a-t-on eu recours à des légendes plus anciennes, des légendes ailleurs?
En fait, ce qui est amusant ici, et c'est bien de mentionner cette question, est-ce qu'on a fait des emprunts?
Oui.
Et la réponse, elle est oui. Il faut savoir que dans le cas de Jésus, et on l'a bien mentionné en première partie d'émission, les auteurs qui vont rédiger ces textes religieux ne le font pas dans un esprit historique, journalistique, ils le font dans un esprit de « nous communiquons une foi naissante ».
Et là-dessus, il y a un consensus.
Il y a un consensus.
T'as juste à lire quelques lignes dans la Bible et c'est clair.
On comprend ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond historique qui est bien réel. Par exemple, le némésis de Jésus était Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin. C'est lui qui va faire pression auprès de Pilate pour qu'éventuellement on se débarrasse du problème Jésus. Donc, il y a quelques années, lors de travaux archéologiques, on a trouvé une tombe chrétienne, une tombe juive, pardon, du 1er siècle. Et dans cette tombe juive, on a trouvé un ossuaire. Il faut savoir que à l'époque, dans le 1er siècle, la façon dont les corps étaient inhumés, on plaçait le corps dans une sorte de grand tissu. Il était placé dans le tombeau, les tombeaux qui étaient creusés dans le roc. Et ensuite, le corps était là pendant à peu près une année. On retournait un an plus tard, et lorsque le corps était complètement décomposé, on prenait les os de la dépouille, et on plaçait ça dans des petites boîtes, généralement faites en pierre, en marbre, dépendamment de le niveau social du défunt. Et ces os étaient donc placés dans ces petites boîtes qu'on appelait des ossuaires. Et dans la tombe elle-même qui était creusée dans le roc, il y avait aussi des sortes de petites niches qui étaient creusées à même la pierre, qu'on appelait des loculi. Et ce coffret, cette boîte contenant les os, était placée dans ces loculi. Donc, il y a quelques années, en faisant des fouilles archéologiques, on a trouvé une tombe juive du 1er siècle. Et dans ce tombeau, qui visiblement était un tombeau de gens de la haute société juive du 1er siècle, on a trouvé un ossuaire que l'on croit très fortement être celui de Caïphe, donc cet opposant à Jésus, ce grand prêtre du Sanhédrin qui s'est opposé à Jésus. Et oui, c'est vrai qu'au 1er siècle, la Judée était occupée par Rome. Oui, Pilate est un personnage historique. Donc, il y a un fond d'histoire qui est bien réel lorsque l'on parle de ce Jésus. Est-ce qu'on fait des emprunts ailleurs? Bien sûr.
Donc, il y a des éléments de preuve quand même.
Donc, il y a des éléments de preuve. Il y a une trame historique bien réelle. Maintenant, est-ce qu'on emprunte ailleurs? Bien sûr qu'on emprunte ailleurs. Il faut savoir qu'on écrit un texte dans le but d'exposer une foi naissante. Et le concept est très souvent, à l'époque de Jésus, il y avait des thaumaturges. Les thaumaturges étaient des gens, puis il y en a encore aujourd'hui, des thaumaturges, ce sont des gens qui font des miracles. Donc, Jésus était par définition un thaumaturge. Il faisait des miracles. Mais il n'était pas le seul en son temps. Il y en avait d'autres. Le plus connu de l'époque était un grec, je crois, du nom de Apollonius de Tyane. Donc, Apollonius faisait également des miracles. Et le premier à avoir ressuscité un mort, c'est Apollonius de Tyane. D'ailleurs, il a été chassé de Rome parce qu'il avait ressuscité un défunt. Alors, on prend le miracle d'Apollonius. C'est un peu le jeu, les enfants, mon père est plus fort que le tien. Ben là, les auteurs, eux, c'est mon prophète est meilleur que le tien parce qu'il y a plus de miracles. Les miracles sont plus extraordinaires. Donc, on voit ce Jésus soudain qui va ressusciter le fils de la veuve, qui va ressusciter son cousin Lazare. Ben, visiblement, quand on regarde de quelle façon ces miracles se passent, il est fort probable que les auteurs qui ont écrit ces textes, et on le rappelle, les textes qui forment la Bible canonique, les évangiles canoniques, ont été colligés. En fait, ces textes-là ont été écrits entre l'an 60 à peu près et l'an 120 après Jésus-Christ. Donc, minimalement, une trentaine d'années après la mort du prophète. Donc, évidemment, l'histoire s'est gonflée, on a fait des ajouts. Donc, il est fort probable que certains miracles de Jésus, dont, par exemple, celui de la résurrection du fils de la veuve ou de la résurrection de son cousin Lazare, sont probablement des miracles qu'on attribuait à d'autres thaumaturges de l'époque, mais avec lesquels on a habillé Jésus pour le rendre plus extraordinaire encore que ne l'était. Faire un Jésus plus grand que nature. Et c'est ça qui était l'objectif. Donc, oui, on va emprunter à l'histoire, dans la culture religieuse ou dans la culture des croyances de cette époque, on va emprunter des éléments pour les attribuer à Jésus, pour le rendre plus grand que nature. Donc, ça, c'est notre Jésus religieux, ce que nous racontent les évangiles. On fait un bref tableau de ce que nous racontent les évangiles. Il naît, on l'a mentionné un peu, dans des conditions excessivement modestes. L'histoire, pour les historiens, il semble, parce qu'on nous parle du roi Hérode, on nous donne quelques détails sur une trame historique. Les historiens croient que la naissance de Jésus se serait produite entre l'an moins 3 et moins 6 avant Jésus-Christ. Il serait probablement né en été. Maintenant, tout le reste, est-il né à Bethléem? Y avait-il une étoile? Est-ce que les rois mages ont suivi l'étoile de Bethléem? Ça reste difficile. On sait qu'il est de Nazareth. Donc, c'est à Nazareth que lui, son père et sa famille doivent s'inscrire parce qu'à l'époque, il y avait le recensement. Et les gens, même s'ils vivaient ailleurs dans le pays, devaient se rendre dans leur lieu, disons, de naissance ou leur lieu d'adoption pour remplir les registres du recensement. Donc, il était de Nazareth. On ne connaît à peu près pas grand-chose de son enfance. Il y a ces textes apocryphes dont on a parlé un peu, qui, dans certains cas, fournissent des détails sur Jésus, qui n'ajoutent rien au message, mais qui, parfois, ont des petits... Il y a des petits bijoux là-dedans. Je pense, par exemple, dans un des textes apocryphes, on leur raconte que Jésus est à l'école, il est tout petit. Puis là, ben, ses amis de classe se moquent un peu de lui. Puis là, ben, Jésus, il est fâché, puis il tue tout le monde. Donc... C'est pas gentil, mais donc, il a tué tous les autres élèves de la classe.
C'est pas dans la compilation des meilleurs.
C'est pas le best-of. C'est pas le best-of. Donc, c'est ça, des petits trésors comme ça qu'on trouve dans des textes apocryphes. Et on le comprend, ça l'ajoute rien au message, mais ce sont effectivement des éléments qui sont un peu amusants. Et ça fait partie des textes apocryphes. Donc, on ne connaît à peu près, selon si on se réfère essentiellement aux quatre évangiles canoniques, on ne connaît à peu près rien de son enfance. On sait que les auteurs nous disent qu'il s'est occupé des choses de son père. Et ensuite, il prend ministère vers l'âge à peu près de 30 ans. Il va faire ses enseignements et puis éventuellement, il sera arrêté, jugé, en fait, à la demande, pratiquement à la demande du Sanhédrin. Il est arrêté, il est amené devant Pilate, il est condamné à la crucifixion. Donc, la crucifixion, bon, sur le plan historique, on croit que c'est probablement, si le Jésus de l'histoire existait, c'était la manière dont on exécutait des prisonniers de l'époque.
C'était la potence.
C'était une mise à mort qui était un peu traditionnelle pour les prisonniers d'État, ce qui était le cas de Jésus. Donc, il est mis à mort et ensuite, trois jours après au troisième jour, il va se ressusciter. D'ailleurs, ce miracle-là, seul Jésus le possède. Il n'y a aucun autre saint, aucun autre thaumaturge, aucune autre figure populaire qui est allé jusqu'à se ressusciter lui-même. Ça, c'est le miracle des miracles. Et seul Jésus a réussi ce tour de force, si on peut dire. Et puis ensuite, ben, il va fournir ses derniers enseignements avant l'ascension. Et puis ensuite, il donne à ce moment-là ses règles pour que le message soit répandu. Et aujourd'hui, ben, 2000 ans après la mort du Christ, ne serait-ce que sur le plan idéologique ou religieux, 2000 ans après sa mort, le christianisme demeure la religion la plus populaire au monde.
Oui, et avec la branche du catholicisme qui est la plus
populaire
importante.
Du christianisme. C'est amusant parce que tu me faisais remarquer plus tôt que durant la pause que c'est vrai que pour les chrétiens, les catholiques par exemple, tous ceux qui ne sont pas catholiques deviennent tous des protestants. Alors qu'il y a une...
Automatiquement. T'es pas catholique, t'es protestant.
Mais alors qu'en réalité, de ces autres groupes, hein, ces branches hein, qui sont tous chrétiennes mais qui ont des petites divergences dans l'idéologie, ben elles sont très nombreuses.
Les baptistes,
les fondamentalistes, et autres, les témoins de Jéhovah. Donc, ce sont tous des chrétiens, quelque part. Mais sur le plan de l'idéologie, des petites choses qui varient. Donc, ce sont les éléments qui sont associés à notre Jésus de la religion. Maintenant, Jeffrey, le Jésus de l'histoire, est-il conforme au Jésus de la religion?
Et on va se parler de ça après la pause, Christian, dans à peu près 2 minutes, à Mythes et complots, le mystère Jésus.